Il y a des affirmations que nous faisons facilement parce qu'elles sont vraies et que nous y croyons, mais sans toujours en mesurer toute la portée. Et je pense ici pour ce matin, par exemple, à cette affirmation que vous avez certainement déjà entendue, peut-être même l'avez-vous déjà dite vous-même, Christ est tout. On a tout dit, et pourtant on n'a pas dit grand-chose encore. Spontanément, je crois que nous sommes nombreux dans cette salle sur Zoom à être d'accord avec cette affirmation que nous savons vraie. Mais que disons-nous vraiment quand nous disons que Christ est tout ? De quoi parlons-nous ? Ce matin, j'aimerais explorer avec vous cette affirmation pour en révéler en partie, on ne pourra pas être exhaustif, mais pour en révéler en partie sa largeur, sa longueur, sa profondeur et sa hauteur. Et nous amener, je l'espère, à encore plus plier le genou devant Dieu le Père dans la reconnaissance et dans l'adoration pour la plénitude qui se trouve en Jésus. Pour explorer la richesse de notre affirmation, nous allons considérer quatre domaines où cette affirmation s'applique. Et le premier de ces domaines concerne le salut. Christ est tout pour mon salut. Alors j'avais que l'embarras du choix pour les textes que je pouvais utiliser ici. J'ai choisi celui d'Acte 4, versets 8 à 12 que je lis maintenant. Acte 4, versets 8 à 12. Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit, « Chef du peuple et ancien, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été guéri, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui, la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, est devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ce texte et le verset 12 en particulier, avec beaucoup d'autres textes du Nouveau Testament, nous fait comprendre que le salut est entièrement l'œuvre de Christ. Bien sûr, il faut saisir cette œuvre par la foi, c'est là notre part. Mais ce qui devait être objectivement fait pour notre salut a été entièrement et définitivement, parfaitement fait par Jésus. Oui, nous pouvons dire « Christ est tout pour notre salut ». Si le verset 12 souligne que le salut est entièrement l'œuvre du Christ, il souligne aussi que le salut est uniquement son œuvre. En effet, nous lisons que le salut ne se trouve en aucun autre. Dieu n'a donné aucun autre nom que celui de Jésus pour nous sauver. Pour le dire d'une autre manière, Jésus est le seul chemin vers Dieu. « Si tous les chemins mènent à Rome, dit-on, un seul mène au salut, et c'est le Christ. Christ est tout pour notre salut. » Si cette réalité merveilleuse peut nous remplir de joie, je l'espère, elle peut aussi parfois nous questionner. Et paradoxalement, nous amener peut-être même à douter. Pourquoi ? Parce que quand nous entendons que Christ est tout pour le salut, nous réalisons que rien ne dépend de nous. Et cela peut profondément nous déstabiliser. En effet, nous aimons généralement, la plupart d'entre nous, avoir la maîtrise des choses, la maîtrise de notre vie. Nous n'aimons rien devoir à personne. Nous aimons faire pour obtenir et obtenir ce que nous avons fait. Nous aimons mériter ce que nous possédons. Et quand cela n'est pas le cas, alors, nous pouvons avoir le sentiment que les choses nous échappent. Nous pouvons gamberger de toutes sortes de manières. Mais en fait, en raisonnant ainsi, nous faisons fausse route. Pourquoi ? Parce que dans le domaine du salut, ce qui devrait légitimement générer des interrogations et du doute, c'est si le salut dépendait de nous, même si ce n'était qu'en partie. Si le salut dépendait de ce que nous faisons ou de ce que nous devrions faire. Si le salut dépendait de ce que nous ressentons. En fait, que le salut dépende entièrement et uniquement de Dieu est la garantie et l'assurance de notre salut. Cette compréhension des choses demande bien évidemment un certain lâcher-prise de notre part. Pourquoi est-ce que nous pouvons avoir l'assurance de notre salut ? Bien évidemment parce que Dieu l'a promis. Il a promis que rien ne pourrait séparer les siens, ses enfants, de son amour. Il a promis que personne ne pourrait les arracher de sa main. Pourquoi est-ce que nous pouvons avoir l'assurance de notre salut ? Bien évidemment aussi avec ce que nous sommes en train de dire, parce que Christ est tout pour notre salut, parce qu'il a tout accompli, parce qu'il n'y a plus rien à faire, seulement à l'accueillir dans notre vie. Permettez-moi ici d'illustrer ce qu'est l'assurance du salut par une petite histoire. Je me suis rendu compte, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas raconté d'histoire. Nous sommes quelque part en Europe et nous sommes au Moyen-Âge. Pour se rendre à leur village, les habitants n'ont qu'un seul chemin possible. C'est le chemin qui enjambe la rivière au moyen d'un pont de bois. Mais voilà, le pont est cassé. Heureusement, nous sommes en hiver et la rivière est gelée. Arrive un premier villageois, tout tremblant de peur, à l'idée de devoir passer de l'autre côté en traversant sur la glace. Celle-ci tiendra-t-elle ? Ne cédera-t-elle pas sous son poids ? Il s'engage sur la glace à pas de fourmi, tremblant comme une feuille, et au bout de minutes interminables, il arrive enfin de l'autre côté, sain et sauf. Arrive ensuite d'un pas décidé, cette fois-ci, un autre villageois. À l'évidence, lui ne se pose pas les mêmes questions. Et le voilà qui s'engage avec détermination sur la rivière glacée, et en quelques secondes, il traverse, et le voilà sain et sauf de l'autre côté. Nous constatons à la fin de cette petite histoire que les deux villageois sont arrivés de l'autre côté sains et saufs. Est-ce qu'il y en a un qui était plus en sécurité que l'autre ? Mais au fait, de quoi dépendait leur sécurité ? De leur ressenti ? De leur compréhension de la situation ? De leur courage ? De leur prudence ? En fait, leur sécurité ne dépendait absolument pas d'eux. D'ailleurs, elle était la même pour les deux, qu'ils soient prudents ou téméraires. Leur sécurité dépendait d'une seule chose, l'épaisseur de la glace. L'épaisseur suffisante de la glace pour supporter leur poids. Voilà leur sécurité. En traversant. Et il en est de même pour le salut. Parmi les chrétiens, parmi celles et ceux qui ont mis leur foi en Jésus, il y a des personnes pleines d'assurance, qui ne doutent jamais. Et puis, il y en a d'autres qui sont pleines de crainte et qui doutent tout le temps. Est-ce que c'est ces choses qui sont déterminantes et qui seront déterminantes au final pour leur salut ? Peut-être leur théologie, peut-être le nombre de leurs bonnes œuvres. Finalement, de quoi dépend le salut de chacun ? Chers amis, le salut, notre salut, si nous sommes en Christ, dépend de l'épaisseur de la glace et de l'épaisseur de la glace uniquement. Il dépend de l'épaisseur de l'œuvre du Christ qui est soit suffisante ou pas pour nous sauver, suffisante pour porter tous nos péchés. Il dépend de l'épaisseur de l'œuvre du Christ qui est suffisante pour nous amener sains et saufs de l'autre côté, jusqu'au bout de notre chemin, dans le royaume de Dieu. Et cela sera vrai pour tous les confiants et pour tous les craintifs qui auront mis leur foi en Jésus. C'est pourquoi comprendre que Christ est tout, tout pour notre salut, c'est pouvoir vivre le repos de l'assurance du salut, quand j'ai compris cela. Mes mérites ne sont pas suffisants, ils ne le seront jamais, c'est une certitude, mais les mérites du Christ sont pleinement suffisants. Ma fidélité à Dieu, je constate malheureusement qu'elle est parfois à géométrie variable. Mais celle de Dieu en ma faveur est infaillible. Oui, à Dieu soit toute la gloire, parce que Christ est tout pour le salut, pour mon salut. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. Et je pourrais même dire quel repos terrestre, Jésus, d'être à toi. Le deuxième domaine où s'applique notre affirmation est la relation à Dieu le Père. Ce point aurait pu être traité dans le précédent tellement ils sont étroitement liés. Dans Jean 14, au verset 6, Jésus dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Bien évidemment, le sens premier de cette affirmation, c'est celui du salut. Et donc, ça rejoint tout ce que nous venons de dire. Jésus est le seul chemin vers Dieu, il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné pour notre salut. Ceci dit, Jésus n'est pas seulement le seul chemin pour la conversion, pour le salut. Il est aussi le chemin d'accès au Père tout au long de notre vie, tout au long de notre vie chrétienne. C'est pour révéler le Père que Jésus, que le Fils est venu. C'est pour que nous puissions être en communion avec son Père jour après jour que Jésus a ouvert un chemin au travers de son voile, c'est-à-dire au travers de sa chair. Ainsi, du premier jour au dernier jour, ma relation avec Dieu le Père repose uniquement sur l'œuvre de Jésus. Et jamais sur autre chose, jamais. Jamais sur ce que je fais ou ne fais pas. Si la grande majorité d'entre nous serait d'accord pour dire que le salut est entièrement par grâce, que la vie chrétienne est une grâce et qu'en fin de compte, tout est grâce, il nous faut cependant reconnaître que dans la pratique, il est parfois aisé de dévier, souvent sans nous en rendre compte, et d'adopter une attitude de mérite. Après tout, ne faisons-nous pas toutes sortes d'efforts pour plaire à Dieu ? Ne faisons-nous pas des sacrifices pour lui obéir ? Ça a de la valeur quand même, ça a du poids. Ne le servons-nous pas fidèlement depuis un certain nombre d'années ? N'avons-nous pas, comme le disaient les disciples, pour certains, tout quitter pour le suivre ? Oui, parfois le chrétien, le disciple de Jésus peut finir par croire que Dieu lui doit quelque chose, qu'il mérite, même si ce n'est qu'en partie, la grâce qui lui est faite. Si j'ai volontairement grossi le trait, l'écueil dont je parle est néanmoins réel. C'est pourquoi je crois qu'il faut toujours veiller et ne jamais oublier que même après 10, 20, 30, 40, 50 années ou plus de vie chrétienne, ma relation à Dieu le Père est toujours et uniquement une grâce, comme au premier jour, comme lors de la conversion. Et que mes bonnes œuvres, quelles qu'elles soient, ne seront jamais suffisantes, que ma propre justice, quelle qu'elle soit, ne sera jamais rien qu'un vêtement sale aux yeux de Dieu. Jour après jour, Jésus est et reste le seul chemin vers le Père. Il est tout pour notre relation, notre communion avec Dieu le Père. C'est lui qui a ouvert le chemin, qui nous donne accès au Père. C'est revêtu de sa justice que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce, nous approcher du Père. C'est parce que nous prions en son nom que Dieu nous écoute et qu'il exauce nos prières. À Dieu soit toute la gloire, car Christ est tout pour ma relation avec Dieu son Père, qui est aussi notre Père. Le troisième domaine où s'applique notre affirmation est la vie et le service de la vie chrétienne de l'enfant de Dieu. Et pour le chrétien, la vie et le service vont toujours de pair. Trois versets ici pour nous accompagner. Jean 15, 5, « Moi je suis le cep, dit Jésus, vous les sarments, celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Philippiens 1, 21, puis 4, 13, « Car pour moi, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Que disent ces trois textes ? Ils disent entre autres que Christ est tout pour la vie et le service fructueux du chrétien. Sans lui, j'espère que nous en sommes convaincus, notre service est vain. Hors de lui, nous ne pouvons rien faire. Et il faut comprendre ici, nous ne pouvons rien faire qui compte vraiment pour l'éternité. Bien évidemment qu'on peut faire des choses sans le Seigneur, mais elles n'auront pas de poids pour l'éternité. Hors de lui, nous ne portons pas de fruits. Comprenez ici aussi du fruit pour l'éternité, du fruit pour la gloire de Dieu, du fruit pour l'avancement de son règne. Notre capacité à faire la volonté, sa volonté, vient de lui et de lui seul, même s'il nous faut bien sûr le vouloir et le choisir. Il me semble, après quelques années de vie chrétienne, qu'une des grandes difficultés du service chrétien n'est pas tant d'agir, n'est pas tant de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose, mais c'est de le faire dans le Christ. C'est de le faire en comptant consciemment sur lui. Sans nier le rôle de nos aptitudes, de nos dons que Dieu utilise, bien évidemment, il nous faut reconnaître qu'un des principaux écueils contre lesquels il nous faut régulièrement lutter est celui de faire les choses par nous-mêmes. De les faire parce que nous savons les faire, parce qu'on a acquis un peu d'expérience. De faire sans vraiment le confier au Seigneur. Le faire bien souvent en priant après coup, pour que Dieu bénisse ce que nous avons fait sans lui. Qu'il est facile parce qu'il y a tant de choses à faire, parce que le temps nous manque si souvent, parce que la chair fait bataille en nous contre l'esprit et nous pousse dans ce sens, qu'il est facile de perdre de vue l'aspect spirituel du service chrétien. de passer à côté de la réalité du combat spirituel qu'il nous faut mener, de commencer par l'esprit et puis de continuer par la chair, qu'il est facile de faire de la quantité plutôt que de la qualité, qu'il est facile de faire comme si le résultat finalement dépendait de nous, de notre maîtrise de choses, de notre expertise, et non pas de Christ, par lequel nous pouvons tout. Comprenez tout ce qui compte vraiment pour l'éternité, pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. À Dieu soit toute la gloire, car Christ est tout pour ma vie et mon service. Le quatrième et dernier domaine s'articule de la manière suivante: Christ est tout pour l'Église, et en particulier pour son unité. Et je lis Colossiens 3, verset 11. « Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. » Nous reviendrons dans quelques instants à ce verset. Mais j'aimerais commencer par une généralité sur l'unité de l'Église. L'Église de Jésus-Christ est unie parce que Christ est tout pour son unité. Il est tout pour l'Église et il est tout en particulier pour son unité. En fait, en Christ et par Christ, tous les chrétiens du monde entier sont unis. Mais ils sont aussi très doués pour ériger entre eux toutes sortes de barrières qui divisent. Mais ils sont unis en Christ. Ainsi, quand il n'y a pas d'unité dans une église ou entre des chrétiens, c'est que cette unité dépend d'autre chose que de Christ, tout simplement. On peut dépendre, par exemple, notre unité pourrait dépendre de nos opinions, et nous avons tous la même opinion sur certains sujets. Alors on confondrait unité et uniformité. On pourrait aussi faire dépendre notre unité de nos affinités. Nous nous entendons tous bien. On a tous envie de faire des choses ensemble. Mais on confondrait alors église et club. Ces différences et d'autres encore existent dans l'Église. Nous sommes tous différents. Mais ce sont des richesses en réalité. Ce sont des richesses quand les fondements sont clairs et que c'est le Christ qui est le ciment de l'Église. Alors ces différences sont une richesse. Revenons à Colossiens 3, verset 11, auquel j'ajoute les deux versets qui précèdent. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Vous vous êtes dépouillés de l'homme ancien avec ses agissements, et vous avez revêtu le nouveau qui se renouvelle en vue de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni homme libre, mais le Christ est tout et en tous. Que dit Paul ? Dans les versets qui précèdent, versets 9 et 10, je l'ai mis en jaune, il souligne, il parle du vieil homme tout d'abord, ou de l'homme ancien qui a été dépouillé, dit-il, et il parle de l'homme nouveau qui a été revêtu. Et quand Paul dit au verset 11, il n'y a là ni grec, ni juif, ni etc., le « là » de ce début de verset 11 fait référence à l'homme nouveau dont il vient de parler. Ainsi, dans ces versets, Paul fait référence à cette nouvelle humanité créée en Christ. Et il dit en essence que dans cette nouvelle humanité, les barrières qui nous divisaient naturellement, qui nous séparaient quand nous étions hors de Christ, quand nous étions dans le monde hors de Christ, ces barrières n'ont plus lieu d'être. Ces barrières qui peuvent être raciales ou nationales, juifs et grecs, qui peuvent être religieux, circoncis et incirconcis, qui peuvent être culturelles, barbares et scythes, qui peuvent être sociales, politiques ou économiques, libres et esclaves. Toutes ces distinctions, ces différences appartiennent à l'homme ancien et n'ont rien à faire dans l'Église, qui est cet homme nouveau. L'Église qui est la nouvelle humanité créée en Jésus-Christ. Cette réalité décrite par Paul, c'est quelles que soient nos différences, c'est que quelles que soient nos différences, nous sommes tous spirituellement égaux devant Dieu et nous avons tous le même statut spirituel. Nous sommes sauvés par grâce. Notons en passant que ce qui est aboli, ce qui est obsolète dans cet homme nouveau, ce sont les divisions qui existaient dans l'homme ancien et non pas les différents rôles qui peuvent exister et qui doivent exister dans l'Église. Passons à la fin du verset 11 où Paul dit « Christ est tout et en tous ». Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que Christ est tout ce qui compte dans cet homme nouveau. Dans cette nouvelle humanité, il est celui qui la rend possible de A à Z. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de valeur. Mais sans le Christ, cette nouvelle réalité n'existerait pas. Et elle existe parce que Christ la rend possible. Et c'est lui seul qui la rend possible, de A à Z. Il est tout et en tous, ajoute Paul. Il faut comprendre dans tous les membres du corps de ce nouvel homme. Christ imprègne et habite tous les membres de son corps, quelle que soit leur race, quelle que soit leur classe sociale, leur origine ou leur culture. Voilà la raison fondamentale de l'unité de l'Église que nous avons déjà évoquée. Christ est tout et en tous. Il transcende toutes les barrières. Il unit, il unifie en lui ceux qui autrement auraient été séparés. Et notre part, bien sûr, n'est pas de créer cette unité qui existe. Elle est là, que nous la vivions ou pas, elle existe. Notre part, c'est de la conserver. Vous connaissez comme moi ce verset de Paul aux Éphésiens qui le souligne. « Supportez-vous les uns les autres dans l'amour en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » L'unité de l'esprit, c'est la même unité dont nous sommes en train de parler. C'est l'unité de Christ qui nous est acquise, qui nous est transmise par l'esprit, qui nous est donnée par l'esprit. À Dieu soit toute la gloire, parce que Christ est tout pour l'Église, et en particulier pour son unité. Alors oui, nous pouvons affirmer que Christ est tout. Et en creusant un peu la question ce matin, il y aurait eu d'autres choses à dire. Nous avons constaté combien cette affirmation est large, longue, profonde et haute. Que le Seigneur remplisse nos cœurs d'une profonde reconnaissance et d'une sincère adoration pour celui qui est tout et qui nous a tout donné. C'est ce que Paul écrit dans son épître aux Romains, et je termine avec ce verset, quand il dit « Que dirons-nous donc à ce sujet ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas tout avec lui, par grâce ?» Oui, Christ est tout. Et en lui, nous avons toutes choses, toutes les bénédictions spirituelles avec lesquelles nous avons commencé. La référence d'Éphésiens du début de l'Épître aux Éphésiens qui était affichée au début du culte. Toutes les bénédictions spirituelles que Dieu a préparées pour les siens de toute éternité. Amen.